À la présentation du journal, Mireille Boukassa.
Chaque 12 février, le monde consacre la journée aux enfants soldats. En RDC, l'UNICEF déplore le recrutement des enfants dans les groupes armés et le gouvernement congolais lance une campagne contre ce phénomène. Et puis, qui dirige finalement l'Union nationale de la presse congolaise? Kabea Pindi Passy, ancien président de l'UNPC, se dit réhabilité par la justice. Cependant, la corporation des journalistes qui réfute cette décision affirme que ce n'est pas à la justice de réhabiliter une personne radiée par la profession. Nous ferons les points dans quelques instants. Près de 2000 tonnes de marchandises sont bloquées dans la province du Katanga. La SNCC éprouve d'énormes difficultés à évacuer ces marchandises entreposées dans ces installations au nord de cette province. Nous en parlerons dans la seconde partie de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 12 février, c'était hier et la journée est consacrée dans le monde aux enfants associés aux forces et groupes armés. La RDC compte environ 30 000 enfants déjà sortis des groupes armés, mais il en reste encore quelques centaines. Le chargé de la protection de l'enfance et du programme DDR à l'UNICEF l'a dit hier. Maïga Aliou a salué les efforts fournis dans le cadre de la réinsertion sociale de ces enfants, mais a déploré par ailleurs que des groupes armés, même signataires des accords de Goma, continuent à recruter des enfants dans leur rang. Il le dit au micro de Patricia Mwanga et René Capita.
En août, septembre et octobre, jusqu'en décembre, il y a eu des tensions énormes au niveau du Nord Kivu, où il y a eu de nouveaux recrutements d'enfants qui pourraient nous dire que les effectifs ont monté. Mais on pourrait aujourd'hui les estimer à des centaines d'enfants, voire plus d'un millier d'enfants qui ont été repris par les groupes armés. Et ces groupes armés se sont retrouvés pendant la conférence de Goma. Et ces groupes armés ont pris aussi l'engagement de cesser le recrutement des enfants. Il s'agit notamment des groupes Mai Mai du CNDP et aussi des groupes qu'on appelle FDLR. Au niveau des FARDC, ce sera difficile de le dire. Le système de brassage ou de vérification des enfants n'est pas un système totalement scientifique. Il pourrait arriver que des enfants passant par le processus d'identification échappe à une vérification réelle. Il faut féliciter les autorités, bien que quelquefois il y a des difficultés, mais on a accès à certains centres de brassage pour faire le travail de vérification.
Toujours à l'occasion de cette journée internationale de l'enfant soldat, le gouvernement congolais lance la campagne « Zéro enfant soldat en République démocratique du Congo ». Le directeur du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale explique le pourquoi de cette campagne. Le professeur Tumbaloaba est au micro de Agathe Pona.
La situation des FARDC, si le phénomène enfant soldat persiste, il doit être résiduel et en voie d'apparition. C'est ainsi qu'on se propose de faire repasser par le traitement DDR pratiquement 70 000 membres des FARDC. Cette année, nous lançons la campagne Zéro enfant soldat en République démocratique du Congo pour fin 2008. Mais cela ne peut être une réussite que lorsque les groupes armés auront disparu. Chaque mois, nous recueillons à peu près 200 enfants soldats qui sortent des groupes armés. Et jusqu'à ce jour, dans le cadre de l'acte d'engagement, nous avons beaucoup insisté là-dessus, que tous les groupes armés du Nord et du Sud qui vous doivent arrêter le recrutement des enfants soldats et organiser la sortie de leur rang.
Une autre campagne est lancée toujours à ce sujet à Bukavu. La coalition pour la lutte contre le recrutement des enfants s'en va en guerre officiellement depuis hier contre l'utilisation et le recrutement des enfants soldats. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Bagira. Par ailleurs, Radio Kapi s'est rendue dans le centre de transit et d'orientation du BVS où une trentaine d'ex-enfants soldats sont encadrés. Suivez ce reportage de Astrid Mujinga.
Nous nous trouvons dans le centre du bureau de volontariat pour la santé BV sans sigle. Une trentaine d'ex-enfants soldats fraîchement retirés des groupes armés du nord comme du sud Kivu font de la gymnastique. La plupart ont été recrutés de force, comme le témoigne cet ex-enfant soldat sorti du groupe d'Nkunda.
J'étais à Masisi lorsque les soldats de Laurent Kunda m'ont pris par force. J'ai pu quitter et me diriger vers chez moi à Nyabibwe lorsque des militaires des FARDC m'ont secouru pour m'amener ici à la 10e région militaire.
Si ces enfants et beaucoup d'autres sont déjà démobilisés et d'autres réinsérés dans leur famille, beaucoup d'autres sont encore gardés dans différents groupes et forces armées. Mourabazi Namigabe, coordinateur de la coalition provinciale pour la lutte contre l'utilisation et le recrutement des enfants, nous en fait le bilan.
Pour le site Kivu, depuis 2002, nous avons plus ou moins 5000 enfants, filles et garçons qui sont déjà sortis des forces et groupes armés et intégrés dans leurs familles. Mais nous avons encore un grand défi qu'on a encore des dizaines de groupes armés qui détiennent environ 1800 ou 2000 enfants, filles et garçons.
Signalons que la plupart des enfants déjà démobilisés sont encadrés dans différents centres où ils apprennent un métier. Depuis Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Kabeya Pindipassi, ancien président de l'Union nationale de la presse congolaise, a-t-il été réhabilité dans ses fonctions par la justice? La question suscite une polémique au sein de la Corporation des journalistes. Kabeya affirme qu'il est réhabilité, cependant, le comité directeur de l'UNPC soutient le contraire. Des précisions avec Agathe Ponin.
Dans une déclaration faite ce mardi à Radio Okapi, Kabeya Pindipassi affirme que le parquet général de la Gombe a classé sans suite l'affaire l'opposant à la corporation. En effet, une correspondance du procureur général près la cour d'appel de la Gombe renseigne que les infractions lui reprochées sont non établies. Dans une autre correspondance, Kabeya Pindipassi s'adresse au ministre de la Communication et Médias. Il lui informe de la fin de l'affaire l'opposant à l'UNPC et de sa reprise de fonction à la tête de celle-ci. De son côté, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, affirme que Kabeya Pindipassi ne fait que créer une confusion dans cette affaire. Dans un point de presse animé ce mardi après-midi, le secrétaire général de l'UNPC se dit étonné que Kabeya Pindipassi détienne une lettre de classement sans suite dont l'UNPC n'est pas informé. D'autre part, il ajoute que, je cite, « la décision de classement sans suite est une mesure administrative qui n'emporte pas l'extinction de l'action pénale ». Fin de citation. Toujours selon le secrétaire général de l'UNPC, ce n'est pas la justice qui réhabilite Kabeya Pindipassi radié par la profession. Le ministre de la Communication et Médias, qui était trop pris ce mardi selon sa secrétaire, n'a pas été en mesure de nous donner son son de cloche dans cette affaire.
Le sénateur Jacques Joly a déposé hier mardi une plainte à la Cour suprême de justice. Dans sa requête, le vice-président de la Commission Défense et Sécurité du Sénat dénonce la violation à la loi budgétaire proposée par le gouvernement de l'article 175 de la Constitution. Selon lui, la Constitution doit garantir aux provinces des revenus substantiels retenus à la source. Notons que le sénateur Lunda Bouloulou avait déposé la semaine dernière une plainte dans le même sens contre cette loi budgétaire à la Cour suprême des justices. Les nominations des nouveaux magistrats par le président de la République font encore parler d'elles. Selon le mouvement de libération du Congo, ces nominations violent la Constitution, notamment en ses articles 82 et 152. Dans un communiqué publié hier mardi dans la soirée, le MLC estime que ni les circonstances exceptionnelles, ni l'urgence et la nécessité évoquées pour justifier ces décisions prises, je cite, dans la précipitation, ne peuvent avoir pour effet de contourner la Constitution au moment où le projet des lois sur le Conseil supérieur de la magistrature est en examen au Parlement. Le MLC s'inquiète du recul de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que de la menace sur la cohésion nationale créée par ces décisions. Le parti de Jean-Pierre Bemba en appelle au respect strict de la Constitution. Autre chose, un plaidoyer sur la lutte contre les violences faites aux femmes s'est tenu hier mardi à Kinshasa, organisé par le ministère Genre, Famille et Enfants. Cette séance s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne d'activisme contre l'impunité sur les violences sexuelles. Cette campagne, lancée depuis le 26 novembre dernier, est soutenue par la société civile, le FNUAP, l'UNIFEM et le PAM. Sandra Mutombo nous en parle.
Non au viol, au crime contre l'humanité et à l'impunité. Stop au viol de notre ressource la plus précieuse. Tel est le message central de cette campagne du ministère Genre, Femmes et Enfants. Ce programme vise à vulgariser la loi sur les violences sexuelles en vue de sensibiliser la population congolaise sur les démarches à suivre en cas de préjudice. Pour le chef d'état-major de FARDC, le général Kayembe Mbandakoulou, il est temps de prendre des mesures sévères contre toutes les brebis galeuses de l'armée congolaise et toutes les personnes qui commettent des actes ignobles. À cet effet, l'inspecteur général adjoint de la police a informé l'opinion de la mise sur pied du plan d'action mixte entre le FARDC et la police nationale congolaise. Ce plan prévoit la formation des inspecteurs de police judiciaire et des magistrats, la création de centres de dépistage ainsi que l'installation des unités de violence sexuelle. Selon lui, pour réaliser ce plan, le FARDC et la PNC ont besoin de 100 600 000 dollars américains, mais jusque-là, ils ne disposent que de 210 000 dollars américains.
Okapi. Près de 2000 tonnes de marchandises sont bloquées dans la province du Katanga. La SNCC éprouve d'énormes difficultés à évacuer ces marchandises entreposées dans ses installations au nord de cette province. Nous en saurons plus dans la seconde partie de ce journal. D'abord, l'actualité en plus bref. À la Ligue nationale de football, coup d'envoi ce mercredi des rencontres de la deuxième journée. À Kisangani, Dragon de Kinshasa sera opposé à Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi. À Bukavu, V-Club de Mbuji rencontrera Simon Terry de Lukala du Bas-Congo. À Matadi, l'équipe locale de Veti Club croisera Molungue de Mbandaka. Au même moment, à Kinshasa, Makila de Bandundu s'expliquera au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Et à Kananga, en match en retard de la première journée, Virunga de Goma jouera contre Chinkunku. À l'étranger, d'importantes mesures de sécurité ont été prises à Kigali avant la visite prévue le 19 février au Rwanda du président américain George Bush. Selon cette nouvelle de l'AFP, des policiers et des volontaires civils de la défense locale patrouillent dans la capitale rwandaise jour et nuit. Les débits de boissons ont quant à eux l'ordre de fermer à 23h juste heure locale. La visite du président Bush au Rwanda s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et sera également consacré à la sécurité de la région des Grands Lacs africains. Lors de sa tournée africaine prévue du 15 au 21 février, le chef de l'État américain se rendra également au Bénin, en Tanzanie, au Ghana et au Libéria.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Nazan Koko, nous sommes dans le Bas-Congo. Les élèves du lycée Vuvu Kieto de Matadi sont descendus hier dans la rue.
Ils manifestaient leur mécontentement face à la grève déclenchée depuis lundi par les enseignants affiliés au syndicat des enseignants du Congo Sieko en sigle. Selon le maire de cette ville portuaire, une rencontre devra regrouper ce mercredi tous les intervenants de l'EPSP et les syndicats des enseignants pour tenter de trouver une solution en faveur d'une reprise imminente des cours dans les écoles de Matadi. Pendant ce temps, à Moana, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a remis lundi un bâtiment de 6 salles de classe réhabilitées qui devra permettre d'accueillir 936 élèves. Les travaux ont été exécutés pendant 6 mois par le Centre d'action pour le développement intégré CADI en sigle. Le coût total des travaux, $12 000 américains.
Au Katanga, la SNCC a du mal à évacuer près de 2000 tonnes de marchandises entreposées dans ses installations au nord de la province.
Et déjà, certains clients de cette entreprise ferroviaire attendent depuis plusieurs mois l'expédition de leurs marchandises parce qu'ils affirment avoir honoré leurs engagements vis-à-vis de la SNCC. Les détails avec Expedite Mwamba Mubi.
Au total, 1650 tonnes de marchandises, constituées en grande partie de celles de cuisine et de poissons, sont depuis plusieurs mois entreposées dans les installations de la SNCC. Confirmation avec Mugeni Abdoul, commerçant du Maniema.
J'ai payé un peu de sel et un peu de ciment qui se trouve dans le magasin. Ça fait plus de 3 mois que les histoires traînent là-bas. Il y a même le fretin et le poisson de nos confrères qui sont venus de ce même côté qui traînent encore là-bas.
D'après certains commerçants, la SNCC pratique la sélectivité vis-à-vis de ses clients. Ils distribuent les wagons en fonction des connaissances. Ils ne tiennent pas compte des clients arrivés les premiers. Il y a des gens qui ont payé depuis le mois de juillet de l'année dernière. Les documents l'attestent. Ils n'ont toujours pas obtenu de wagons. Mais les derniers venus obtiennent sans tarder des wagons. Soit ce sont des connaissances, soit c'est la corruption.
La corruption.
La SNCC dément ces allégations et parle plutôt du manque de wagons. Nous nous efforçons de récupérer une 60aine de wagons qui traînent entre la ville de Kindu et la localité de Kongolo, explique un responsable sous couvert de l'anonymat. Malgré tout, la demande se fait encore plus forte. Outre les 1650 tonnes de marchandises qui attendent d'être évacuées, la SNCC recherche encore une 40aine de wagons pour satisfaire ses autres clients. Le PAM, la FAO, l'ONG FHI, les commerçants de monnaie d'Itou. Kalemi, Excedi Mwambamubi, Radio Kapi.
Dans le Bandundu, pour finir Nazaire, avec ce don de la FAO aux agriculteurs de Kaimba.
Ces 15 tonnes d'intrants agricoles entrent dans le cadre de la lutte contre la malnutrition qui sévit dans ce territoire et dont le taux, rien que pour les zones de santé de Kaimba et Kajiji, s'élève à 21%. Une situation qui inquiète certaines agences des Nations Unies et d'autres organismes basés à Kikwit, suivant ce reportage de Frédéric Ipani.
Cette intervention de la FAO dans les territoires de Kaemba, relève le chef d'antenne de Kikwit, est une réponse pressante à la situation préoccupante qui prévaut dans ces territoires, notamment dans ces zones de santé de Kaemba et de Kajij. Ces intrants composés de houx, machettes, bêches, haches et arrosoirs pourront aider les paysans à se lancer dans les activités de culture vivrière, maraîchère et de pisciculture, ont précisé les responsables de la FAO. Selon une enquête réalisée en juillet 2007 par l'ONG Memisa Belgique et le Programme National de Nutrition dans les zones de santé précitées, le taux de malnutrition aiguë globale s'élève à 21%, celui de malnutrition aiguë sévère à 10,2%, tandis que le taux de mortalité rétrospective des enfants de moins de 5 ans est de 2 sur 10 000 par jour. Cette première réaction de la FAO est consécutive au rapport fait par la mission interagente d'évaluation des besoins humanitaires des populations de ces deux zones de santé. Kikwit, Frédéric Ipani, Radio Okapi.
Merci Nazar Coco pour toutes ces précisions et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiocapi.net. Okapi.